France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, vous écoutez France Culture, Jean-Luc Gadreau avec vous pour Solae, le rendez-vous protestant, un magazine produit par la Fédération protestante de France. En ce dimanche matin, mon invité principal sera la Bible, et plus spécialement, The Bible. Et pour en parler, Anna Horouz, bibliste et chef de projet à l'Alliance biblique française, Raphaël Warnery, 25 ans et scout depuis ses 9 ans, membre de la commission vie spirituelle des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Et puis il y a notre chroniqueuse du jour, Laurie Chamard. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, The Bible, si je présente les choses ainsi, c'est parce qu'il s'agit du fruit d'un travail de plusieurs années par une équipe interconfessionnelle pour proposer à un jeune public la Bible autrement, pour le dire assez simplement. Nous allons parler de ce projet qui date déjà de 2011, mais qui est continuellement renouvelé, développé avec toutes sortes de propositions ajoutées. C'est un véritable univers, The Bible, présent d'ailleurs aussi sur les réseaux sociaux. Jeunesse oblige. Nous allons en parler ensemble, mais une question toute simple peut-être pour commencer et mieux vous connaître, Anna et Raphaël. Que représente la Bible pour vous dans votre expérience personnelle, Anna ?
La Bible, pour moi, est arrivée par le biais de la famille, par le biais d'une immersion en Église et aussi par la rencontre extraordinaire d'un pasteur et d'une catéchète qui m'ont montré que c'était un livre certes impressionnant, mais qui pouvait être extrêmement intéressant. Et j'ai eu la chance vraiment de leur part qui m'ait plongée dedans, qui m'ait laissé le malaxer, l'interroger, le questionner, etc. Et franchement, ça a été aussi un univers... très stimulant. Et puis, à l'époque, mes parents aussi avaient ouvert leur salon aux voisins qui posaient beaucoup de questions sur cette Bible. Mmh. Et avec donc ce pasteur qui venait à domicile répondre aux questions. Et donc, je me suis rendu compte des différents regards qu'on pouvait avoir sur cette Bible. Des regards certes de croyants, mais des regards aussi de non-croyants.
Ça a forgé une façon d'aller vers le texte ?
Complètement, complètement. Mmh. Et surtout, ça l'a complètement décloisonné. Mmh. J'ai eu l'impression que c'était un monde très ouvert. Et ça, c'est extra.
Et aujourd'hui, la Bible, dans votre quotidien, c'est...
Aujourd'hui, je dirais, c'est un peu comme ma respiration.
Ouais,
je ne peux pas dire que je l'ouvre tout le temps, mais elle est tout le temps présente.
D'accord.
Il y a un verset qui me vient, il y a une évocation, bien sûr dans mon travail, ça c'est sûr. Mais enfin, voilà, c'est assez naturel.
Et Raphaël
Alors moi, j'ai utilisé la Bible assez bien, parce qu'en fait, quand j'étais petit, mes parents ne voulaient pas que je lise de bande dessinée. Et du coup, en fait, j'ai trouvé la technique. Étant d'une famille protestante, la Bible était essentielle. Et du coup, j'ai dit, mais attends, si je prends la Bible en BD, je vais m'en sortir. Et du coup, j'ai commencé comme ça.
Ok.
Et après, ça m'a amené, en fait, j'ai trouvé surtout d'abord des histoires. Notamment l'Ancien Testament, beaucoup. Des histoires très humaines. Moi, je crois que ce qui m'a plu d'abord, c'est effectivement ce côté très terre-à-terre. Pour vous confier, au début, j'avais du mal avec le personnage de Jésus. En me disant, il est un peu égocentrique. Et ensuite, on m'a dit, attention, déjà, c'est pas lui qui écrit. Enfin, on m'a fait toute une explication. Mais du coup, j'étais très sur l'Ancien Testament. Et du coup, ça a été d'abord des histoires. Et au moment où je me suis dit, bon, je connais les histoires, on m'a dit, attention, maintenant, il est temps pour toi de savoir qu'il y a aussi quelque chose derrière, qu'il y a des traductions, qu'il y a un texte. Et là, ça a refait naître, pardon, une passion pour en moi. Et du coup, aujourd'hui, je crois que je continue à le lire. Et j'essaie d'être le plus présent possible à l'église, mais en fait, avec mes engagements, c'est difficile. Mais par contre, c'est vrai que j'essaye au moins d'ouvrir la Bible souvent, parce que c'est source d'inspiration. Et j'aime bien dire la blague qu'en fait, au moment où tu t'y touches, après, tu t'en sors plus parce que t'as envie de la lire tout le temps et de savoir encore plus, de savoir les traductions. Enfin, il y a tout un truc.
De comprendre plein de choses.
De comprendre plein de choses.
Alors, Raphaël, je disais en vous présentant que vous étiez membre de la commission vie spirituelle des EEUDF, comme on dit. Enfin, ça, c'est l'acronyme. En quoi consiste cette commission précisément dans le scoutisme et dans ce groupe de scouts en particulier? Comment vivez-vous cette mission qui vous est confiée?
Alors, on a cette particularité de ne pas être un mouvement d'église. On est un mouvement laïque et protestant. Souvent, les gens ils disent, mais attends, c'est pas possible. Et en fait, si, c'est possible et c'est même essentiel. C'est-à-dire que nous, on part du principe qu'on doit accueillir tout le monde. Et du coup, la commission vie spirituelle sert à ça aussi. Elle sert non pas à faire vivre partout la vie spirituelle, parce que ça, c'est les animateurs qui le font, c'est les responsables qui sont présents. C'est aussi tous les échelons qui essaient de faire vivre ça, parce que on considère qu'en fait, au même titre que, par exemple, d'autres questions essentielles pour le développement de l'enfant, la question spirituelle est fondamentale. Par contre, on est parti du principe qu'étant un mouvement protestant, et en fait aussi étant entouré de personnes qui savent en quelque sorte ce que c'est la Bible, qui la travaillent, qui la questionnent, nous, ça nous permet de nous dire, on a des relais, on va pas dire n'importe quoi. Et en fait, c'est aussi important aussi pour nous dans notre fonctionnement d'être protestant. Et du coup, la commission vie spirituelle, on arrive là, on est constitué de 5 membres, donc on n'est pas énormément. Et du coup, nous, on est là pour donner à la fois de la formation. Donc on va aller se déplacer sur les formations BAFA qu'on donne, formations régionales.
Donc là, plus avec ceux qui seront éducateurs, moniteurs, enfin...
Exactement, c'est ça. On dit les responsables.
Les responsables.
Chef scout, si vous voulez. Ouais. Et voilà, mais en tout cas, c'est des animateurs, mais c'est aussi des éducateurs, on dit, parce qu'en fait, ils apportent quelque chose aux jeunes. Et eux, leur idée, c'est qu'ils ne sont pas tous protestants. C'est de leur dire attention. Ouais. La Bible, c'est un outil et c'est aussi quelque chose qui va vous aider à faire travailler cette spiritualité, à permettre aux jeunes de se poser des questions.
Et donc ça, c'est la formation.
Formation. Et du coup, dans cette formation, on s'est rendu compte aussi qu'il était nécessaire de leur apporter aussi de la matière. Parce qu'en fait, ces jeunes qui ne sont pas protestants, ou qui même qui le sont, parce qu'il y a des protestants qui ne connaissent pas la Bible, et c'est normal, même à la fin d'une vie, il y en a qui ne connaissent pas la Bible entièrement, donc c'est ça la complexité. Et du coup, nous, on est dans cette approche de dire, attention, on va vous expliquer, on va vous amener des textes, on va vous dire, bah regardez, si vous voulez parler par exemple d'espérance, si vous parlez d'écologie...
Vous pouvez vous appuyer là-dessus.
Exactement, en donnant quelques clés de compréhension, parce que c'est vrai que même, notamment l'Ancien Testament, il y a des choses où on se dit, mince...
C'est pas toujours
comment ça. Exactement. Et c'est là où nous, même si on n'est pas tous théologiens, il y en a une parmi nous qui est pasteur, mais c'est tout. On est juste des gens qui aiment beaucoup ça, qui sont intéressés par ça, mais pas forcément. Il y en a une aussi qui n'est pas du tout croyante et qui trouve ça intéressant aussi, pour autant essentiel même, de parler de la Bible et de parler de spiritualité.
Alors un bon tuyau, dites-leur d'écouter Soleil dimanche matin sur France Culture, ça va aider aussi.
Super, je ferai la pub.
Voilà, on va parler de The Bible un peu plus maintenant, en rappelant donc que c'est en 2010 que ce projet a démarré, avant que ne sorte The Bible l'année suivante. Un sondage révélait que 29% des 15-25 ans possédaient une Bible, 9% d'entre eux déclaraient la lire, même rarement, et pourtant 32% des jeunes pensent que la Bible est une référence littéraire et culturelle importante, contre 21% seulement pour les plus de 60 ans. Alors finalement, la question qui s'est posée, c'est comment rendre ce texte plus abordable, comment aider les jeunes, croyants ou non, à s'approprier un héritage culturel et spirituel majeur. Ces interrogations ont été là, Anna Horouz, et elles ont porté finalement le travail pour arriver à The Bible.
Exactement, il y a eu de vraies prises de conscience. Alors, ce qui était touchant aussi, c'est que ces prises de conscience, cet intérêt pour ce souci d'amener les jeunes à lire la Bible, concernait aussi bien le monde catholique que protestant.
Oui.
Tout le monde s'est retrouvé là. Et la magie du moment, ça a été la rencontre entre l'Alliance biblique française, qui avait ce savoir-faire, ce travail de technique et de compétences de traduction.
Oui, avec aussi l'aspect interconfessionnel.
Et l'aspect interconfessionnel déjà présent. Et puis, c'est justement tous ces acteurs œcuméniques qui se sont mis autour de la table pour travailler sur cette Bible. Alors, comme je dis souvent, The Bible, c'est une Bible, mais c'est plus qu'une Bible. Et c'est ça qui en fait la spécificité, je pense qu'on en parlera.
On va en parler un petit peu plus dans la deuxième partie. Voilà. Raphaël, vous qui êtes à la fois finalement l'un des accompagnateurs du projet aujourd'hui, mais aussi faisant partie de la cible visée par ce projet, qu'est-ce qui pour vous donne plus de sens à The Bible par rapport à une autre traduction, à une autre manière de la présenter? Qu'est-ce qui répond aux attentes des jeunes d'aujourd'hui?
Déjà les commentaires, parce qu'en fait l'avantage de les avoir directement dans la Bible, en fait ça permet d'avoir des approches, d'explications. Et du coup, ça, je veux dire, on en parlait tout à l'heure, cette idée en fait de dire il y a des textes qui sont très opaques pour les jeunes et pour notamment les jeunes adultes. Et ça en fait, ça va vraiment permettre. Mais je crois que surtout la grande nouveauté et l'apport énorme de The Bible, c'est vraiment les outils en fait qui sont donnés
tout autour.
En fait, c'est des outils d'animation qui simplifie le travail, ce que je dirais pas facilite parce que ça simplifie seulement, il y a quand même un travail d'animation, mais c'est assez essentiel et c'est bien pensé, c'est pensé aussi pour justement, et moi j'ai découvert ça parce que je suis pas depuis très longtemps dans le comité.
Oui, bien sûr, vous n'avez que 25 ans.
Même si dans le scoutisme je suis quand même un peu vieux.
Déjà.
Et du coup voilà, il y a vraiment cette idée où les outils, quand je les ai découverts, je me suis dit mais en fait voilà, il y a toute une partie, et notamment moi qui fais aussi un peu de catéchisme en dehors des scouts, il y a aussi ce truc où je me rends compte que en fait il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées alors qu'on avait les deux Bibles. Du coup c'est là aussi où je trouve ça essentiel dans ce rôle-là aussi de faire partie du comité et aussi en fait de pouvoir le donner aux autres. C'est vraiment cette idée de, il y a des outils, saisissez-les, appropriez-les. Et en fait, ils sont assez maniables, ils sont assez aussi l'animateur peut facilement s'en saisir, et ça, c'est vraiment génial.
Alors, ces outils n'existaient pas au tout début, quand The Bible est sorti.
Certains.
Alors,
pour ainsi dire, ils existaient depuis le début, parce que ça a été vraiment ça l'intuition.
Dès le départ.
Après, le choix de la version pour The Bible
a évolué.
Évidemment, c'était du français courant à il y a eu un sondage auprès des jeunes pour voir quelle version
celle qui a été préférée.
Donc ils ont choisi celle-ci. Du fait que Français Courant a été révisé, ça a donné la nouvelle Français Courant. Donc il y a une réédition de The Bible a intégré cette mise à jour, si on peut dire ça comme ça. Mais les outils sont restés. En revanche, aujourd'hui, depuis quelques années, le partenariat a pour mission l'envie de transformer ces outils qui sont dans le livre. En outil déjà pré-mâché pour de l'animation.
D'accord.
Et ça, c'est le petit plus.
Alors ça, c'est ce sur quoi on va aller tout à l'heure. Je vous propose pour l'instant une pause musicale. Et puis juste après, on entendra Laurie pour sa chronique. La pause musicale, c'est l'un des artistes les plus en vue de la scène protestante contemporaine francophone. Côté jeunesse, c'est Hendry avec la chanson « Ma vida ». Henry, ma vida dans Soleil, rendez-vous protestant sur France Culture, où l'on parle ce matin de The Bible avec Anna Horouz, bibliste, chef de projet à l'Alliance Biblique Française, et Raphaël Varnery du comité The Bible pour représenter les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Avec nous également, j'en parlais au tout début de l'émission, notre chère Laurie Chamard, chroniqueuse qui revient régulièrement dans l'émission et qui va pouvoir maintenant réagir dans sa chronique autour de The Bible.
Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous.
Bonjour Laurie.
Aujourd'hui, on parle donc de l'univers The Bible, un projet qui veut faciliter la lecture de la Bible pour les jeunes. Parce que lire la Bible, si vous êtes chrétien, c'est bien. Si vous n'êtes pas chrétien, c'est bien aussi. Et lire tout court, d'ailleurs, c'est bien. C'est aussi bien que faire du sport au minimum 2 fois par semaine, manger 5 fruits et légumes par jour.
Et je vous rappelle, Laurie, que les frites, ça ne compte toujours pas comme un légume.
D'où la difficulté d'en caler 5 par jour. Bref, blablabla, on est d'accord et on sait. Alors, si lire, c'est bien, pourquoi est-ce que c'est dur? Parce qu'il y a des gens qui ont clairement lâché l'affaire, ils lisent pas, ils sont ok avec ça, ils l'ont accepté. Mais on est une bonne catégorie de personnes à se retrouver dans ce qu'un article de Slate nommé « l'insécurité du lecteur ». C'est-à-dire des gens qui en ont envie, mais qui disent à tout bout de champ et à qui veut l'entendre « mais c'est fou, j'arrive plus à lire ».
L'insécurité du lecteur, moi je trouve ça assez étonnant comme appellation finalement.
Ouais, c'est un sentiment d'insécurité parce qu'on a l'impression de pas profiter de la lecture autant qu'on le voudrait en étant rapidement distrait par autre chose par exemple. Et ça s'appelle comme ça parce que ne pas lire nous remplirait d'une certaine culpabilité. Parce que, soi-disant, on y arrivait avant, mais aussi parce qu'on voit les conséquences que le manque de lecture peut avoir sur nous. Rappeler, par exemple, ça s'écrit avec un P, 2 L, 2 P, 1 L, 2 P, 2 L, on ne sait plus, nous sommes perdus. Et comme on m'a toujours dit que lire aidait à bien écrire, je me dis forcément que si je lisais plus, j'aurais plus de vocabulaire, une imagination plus développée, plus de connaissances, plus de savoir. La lecture, c'est le pouvoir.
Super Laurie, en quelque sorte. Et d'ailleurs, Laurie a eu ou au
alors là, Jean-Luc, vous faites remonter de lourds souvenirs d'une enfance à marteler au monde que non, ça ne s'écrit pas comme la chanteuse. Bon alors, sans exagération aucune, si la lecture peut régler tous nos problèmes, pourquoi on le fait pas? Déjà parce que, en fait, on va pas se mentir, c'est rare qu'on ne lise pas parce qu'on est trop occupé à prendre des notes sur des conférences du Collège de France. Les livres ont une sérieuse concurrence avec les séries. Les séries, ça procure de la dopamine beaucoup plus instantanément et ça demande moins d'efforts au cerveau. Par contre, il faut les attendre, ces séries. Dans le temps, dans les années 2000, on attendait entre un an à peu près, entre chaque saison. Aujourd'hui, c'est entre le double et le triple. À l'image d'une série bien connue en ce moment, qui s'appelle Severance, pour qui il a fallu attendre 1015 jours avant d'avoir la nouvelle saison, soit environ 3 ans. Et en 3 ans, nous, on a eu le temps de changer 4 fois de Premier ministre en France, de voir arriver le Trump 2.0 à la Maison Blanche. C'est dire si on a eu le temps d'oublier l'intrigue et les noms des personnages. Le rythme de diffusion devient discontinu et diminue alors l'accoutumance, la petite addiction qui nous fait nous accrocher. Et sans ça, il nous faut un réengagement émotionnel avec les personnages qu'on a perdu de vue pendant 3 ans donc. C'est pas pour vanter encore la lecture, mais ce risque de nécessité de réengagement affectif est bien moindre avec ça. Parce que même si on lit un livre qui est composé de plusieurs tomes, à notre vitesse de lecture, on pourrait bien mettre 2 ans et demi à le lire. Donc, quand le tome suivant sort, on a encore tout bien en tête. C'est très pratique.
Alors, pour Severance, d'ailleurs, perso, moi, j'ai un peu décroché sur la saison 2. Je sais pas vous, mais...
Ah ouais, bah alors peut-être que vous avez vécu justement ce problème possible de démarrage à froid. En tout cas, vous nous direz si vous vous êtes rabattu sur un livre moins décevant. En plus de ça, ça peut être une bonne chose de lire pour une autre raison, qui est la suivante, c'est qu'on se sent seul, les amis. Et c'est pas moi qui le dis, c'est une étude de la Fondation de France, qui est parue en janvier. Un tiers des Français entre 25 et 39 ans se sentent seuls. Alors pour lutter contre ce problème, un certain nombre de gouvernements a mis en place des mesures. En 2018, par exemple, le Royaume-Uni est devenu le premier pays à nommer un ministre de la solitude pour faire entrer le phénomène dans le système de santé britannique, pour que les médecins, notamment, puissent prescrire sur ordonnance des activités comme des cours d'art ou de jardinage. Et c'est quand même une bonne excuse pour procrastiner un vendredi après-midi en disant « je peux pas faire mon boulot, j'ai poterie, mais c'est prescrit par mon médecin ». En tout cas, ces solutions n'incluent pas la lecture, qui reste une activité plutôt solitaire, mais comme le rappelle le sociologue Eric Klinenberg ou Orelsan, que je classe personnellement sur la même échelle d'observation de la vie, il y a des gens très entourés qui se sentent seuls et d'autres qui voient peu d'amis mais qui ressentent pas du tout la solitude. Et peut-être parce que ces gens-là comblent leur temps par de la lecture, qui aide à se trouver des compagnons, voire un compagnon en particulier, si on parle de la Bible. Ça aide aussi à développer son imaginaire, comme tout le monde le dit. On ne sait pas, mais ça vaudrait peut-être le coup d'essayer. Puis si on ne le fait pas, eh ben, il reste toujours les cours d'art, de poterie ou de jardinage, mais il faudra peut-être déménager en Angleterre pour ça.
D'accord, d'accord, Laurie. Moi, je crois que ça vaudrait vraiment le coup d'essayer, en effet. Comme le dit d'ailleurs un petit slogan sonore que j'aime beaucoup, qui vient de la Société biblique belge francophone, le petit frère, en quelque sorte, de l'Alliance biblique française. À la fin de chacune de ces vidéos, en paraphrasant un message bien connu, il est dit « Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé, ne jamais la tenir hors de portée des enfants ». À bientôt, Laurie.
Merci.
La lecture, c'est important, Anna. J'imagine que vous allez droit dans la même direction pour vous aussi.
Complètement.
Vous validez.
Moi, je suis une grande lectrice, donc je ne vais absolument pas dire le contraire. Maintenant, je pense qu'en effet, c'est un vrai défi aujourd'hui. Ça l'a peut-être toujours été, mais plus que jamais aujourd'hui avec tout ce que vous disiez, hein, l'audiovisuel au sens large, le téléphone en particulier.
Tous les parasites, finalement.
Tous les parasites qui viennent interférer. Mais je pense aussi que, justement, la Bible est un livre particulièrement difficile parce qu'il ne se lit pas du début à la fin.
Ouais, Raphaël le disait au début, ça inquiète au départ quand on découvre ce gros livre.
Complètement, moi, enfin, je me permets, mais du coup, ouais, moi, la première fois que j'ai lu hors BD, on va dire, j'étais un, mais en fait, je comprends pas, quoi. Il y a des textes, en plus, il y a certains passages où juste ils épellent des noms, et tu dis, mais pourquoi, à quoi ça sert? Enfin, il y a plein de passages comme ça qui sont
opaques. C'est une bibliothèque de livres, et donc il y a des choses sur lesquelles on va facilement, et puis d'autres où c'est plus compliqué.
Ouais. Ah, mais il y a des choses aussi atroces qu'on aime bien cacher, et en fait, pas cacher, mais histoires, dont on parle pas directement. Donc c'est vrai que quand on dit ouvrez la Bible au hasard, vous trouvez une réponse, il y a certains textes, on dit,
c'est quoi
la réponse, quoi. Du coup, ouais, c'est vrai que voilà, même des questions, enfin, c'est ça qui est intéressant. Mais voilà.
Anna ?
C'est pour ça que du coup, The Bible a voulu, enfin les équipes qui ont travaillé là-dessus, ont voulu aider en proposant des parcours de lecture, par exemple, avec des thématiques et des propositions de tel et tel texte à lire, des petits bouts de versets par-ci, par-là, qui permettraient à un jeune qui se pose des questions, qui est en recherche sur des questions existentielles aussi. L'angle existentiel est extrêmement important parce que c'est ce qui touche le jeune. Il a envie de savoir ce qu'il va faire de sa vie, comment réagir aux problématiques auxquelles il est confronté, quelle espérance, est-ce qu'il y a d'ailleurs de l'espérance à avoir avec l'actualité, avec les soucis environnementaux, par exemple. Et donc, ces parcours de lecture sont une des aides. Il y a aussi les notes, qui sont très existentielles.
Des livrets, des cartes, des jeux, des parcours d'animation, il y a tout plein de choses là qui viennent accompagner.
Oui, ça c'est alors justement sur le site, en effet. Et là, on a transformé des choses presque clés en main. Et l'idée, c'est, y a pas, comme disait Raphaël, il n'y a pas tant l'effort à faire de transformer une information en outil d'application, d'animation. Là, il y a déjà des parcours qui sont aussi avec de la vidéo, parce que la vidéo, ça plaît aux jeunes. Oui. Ça plaît pas qu'aux jeunes, d'ailleurs. Hein, mais
non, des fois on est un peu caricatural.
Il faut pas enfermer
des jeunes. Voilà. Mais aujourd'hui, tout le monde est concerné par ces mêmes choses. Mais d'ailleurs, alors, j'avais pas prévu cette question, mais The Bible, à mon avis, n'est pas lu que par des jeunes.
Pas du tout.
Je l'ai vu utilisé par des gens bien plus âgés, voire très âgés.
Tout à fait, tout à fait.
Raphaël, vous, qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans tous ces outils qui sont autour de The Bible, qui font partie de ce qu'on appelle l'univers The Bible ?
En fait, l'avantage de cet univers, c'est qu'il peut être utilisé directement. Mais aussi, en tant qu'animateur, nous, on encourage aussi à s'approprier les choses, à créer des jeux, à créer des activités. Et en fait, c'est des façons de nourrir. Ça nourrit autant moi qui suis là aujourd'hui, plus à des niveaux régional et national, même si je garde un pied sur le terrain, bien sûr, c'est important. Mais ça nourrit, en fait, notre réflexion, ça nourrit nos outils. En tant que membre de la commission Vie spirituelle, ça nourrit aussi notre approche. Ça nous permet aussi de nous gagner du temps, faciliter la tâche, d'aller plus vite aussi et de comprendre en fait. Et on s'appuie aussi sur des gens qui sont plus professionnels que nous. Nous, on est bénévoles et nous, on s'appuie sur des gens qui ont travaillé, exactement.
Des experts, entre guillemets.
Et qui permettent aussi, ce qui est compliqué avec la Bible, c'est qu'il y a quand même, c'est un rapport important pour beaucoup de monde, et notamment pour moi. Après, il y a des degrés, il y a des façons de trouver ça important. Mais là, on s'appuie sur un travail, je dirais pas de vulgarisation, mais en fait d'explication. Et en fait, ça permet, mais sans justement toucher des gens, parce qu'il y a des gens qui vont mal prendre certaines choses. Il y a des gens, on peut très bien rigoler de certains passages bibliques, d'autres pas du tout, et c'est normal, il y a des sensibilités. Et là, l'idée, c'est que là, ça nous apporte quelque chose qui nous permet de dire, ok, cet angle-là, il est œcuménique, il est accepté, il peut être justement pris, et du coup, on peut travailler à partir de ça. Et c'est quand même quelque chose qui est pas mal pour faire de l'animation.
Alors vous utilisiez le verbe nourrir. Parler de la Bible sans l'écouter nous dire quelque chose n'aurait pas vraiment de sens. On va essayer de se nourrir justement dans ce magazine protestant qui est Solae ce matin avec un texte, comme on a l'habitude avec le rendez-vous avec la parole. C'est David Teinturier ce matin qui se livre à l'exercice de la lecture, un texte qui nous fait remonter dans la toute première partie du Premier Testament. On est dans le livre du Deutéronome. Ça fait partie de ces livres un peu compliqués comme évoqué tout à l'heure Raphaël. Là on est au chapitre 6, les versets 6 à 9.
Les paroles que je te donne aujourd'hui demeureront sur ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu seras en route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de tes villes.
J'imagine, Anna et Raphaël, que vous comprenez le choix du texte de ce matin avec cette pensée de la transmission comme quelque chose d'essentiel, un véritable commandement divin. Alors, le temps du Deutéronome est bien loin de nous aujourd'hui, mais c'est un sentier ancien, en quelque sorte, qui continue de faire sens, intemporel. D'ailleurs, Laurie parlait de super pouvoir tout à l'heure, et justement, vous présentez The Bible sur son site internet dédié de la sorte. Une Bible au super pouvoir, un univers inspirant, tourné vers l'animation et la transmission.
Oui. Et surtout, ce que je trouve extrêmement intéressant pour The Bible et pour The Tour et The Parole et tous les autres
outils, c'est tout ce qu'il y a autour.
C'est qu'il donne aux jeunes des éléments pour réfléchir par lui-même. Comme c'est un outil qui se veut à la disposition de toutes les communautés chrétiennes, et au-delà, bien entendu, il n'y a pas une pensée théologique définie.
Dogmatique.
On est là pour aider le jeune à s'approprier le texte biblique, ensuite à lui de le digérer, de le mâcher, pour pouvoir en sortir un choix de vie, des choix de vie, un choix théologique qui sera le sien. Mmh. Et je crois que ça, c'est... En tout cas, pour moi, ça a toujours été essentiel. Quand on communique le texte biblique, on n'est pas là pour l'enfermer d'office dans une pensée, même si on peut avoir la nôtre, mais on est là pour montrer sa diversité et dans le dialogue, et bien construire après...
Vous venez peut-être tout simplement de donner le sens profond de la transmission.
J'espère rendre des gens adultes.
Voilà, c'est ça, transmettre quelque chose. Merci beaucoup, le temps passe vite, toujours dans Solae. Merci à vous deux, Anna Horouz, Raphaël Warnery, merci Laurie pour votre apport à cette bien belle discussion. The Bible, on peut se la procurer en librairie.
Complètement.
Le livre, et puis on peut aller sur Internet avec toutes ces déclinaisons que nous avons évoquées. Une adresse web qui pourra aider à aller aller plus loin et elle n'est pas compliquée à retenir. www.thebible.com. Après The Bible, et avant de se quitter, quelques recommandations, justement d'autres livres parmi les sorties récentes. Et nous commencerons avec deux nouveaux ouvrages dans la série anniversaire de Labor et Fides. Qu'est-ce que ça change? Il y a Croire, signé par Marion Muller-Collard, qui répond à son fils, qui l'interroge sur sa foi avec tendresse et exigence, enquêtant sur nos stratégies pour nous accommoder des doutes, angoisses, incertitudes, et en poussant sa réflexion jusque dans les domaines scientifiques et politiques. Et puis il y a un autre volume, La laïcité, mais d'un point de vue belge, assez caustique. C'est celui de Vincent Genin, auteur également d'une histoire de la laïcité de 1905 à nos jours, paru l'année dernière au PUF. L'auteur développe là, dans ce livre chez Labor et Fides, le concept de laïcité non pas comme une valeur morale, comme cela s'est assez largement imposé parfois en France, mais comme un principe. Chez Olivier Tan, Vivre la puissance dans l'impuissance, un très beau récit témoignage autour du handicap, qui prend aussi la forme de réflexion, de méditation. Pascal Allaire-Jeanne, l'autrice paraplégique en fauteuil roulant, a exercé pendant plus de 20 ans un ministère pastoral en aumônerie hospitalière. Elle se forme ensuite à la supervision pastorale, devient superviseur formatrice. Aujourd'hui, elle utilise sa compétence en psychologie et en supervision pastorale pour accompagner divers acteurs d'église ou d'associations, transformant son parcours de vie en une source d'inspiration et de soutien pour les autres. Dans le prolongement d'ailleurs de ce dernier, aux éditions du Cerf, L'homme que j'écoute de Vincent Michel, qui nous entraîne dans un voyage imaginaire aux côtés de son petit-fils Corentin sur les traces du Christ, de la barque du lac de Tibériade jusqu'à la montagne des Béatitudes. C'est un récit intime et sensible qui invite à redécouvrir les évangiles à travers des scènes de la vie de Jésus, en offrant une lecture fraîche et émouvante de la parole chrétienne. Docteur en histoire économique et sociale, fonctionnaire territorial puis départemental de l'Hérault, aveugle lui-même, Vincent Michel a été 12 années durant aussi président de la Fédération des aveugles de France. Et puis enfin, on termine chez Farel avec un très joli roman jeunesse, Le disparu de Saint-Priest, écrit par Philippe Dossin, un auteur que j'avais déjà eu le plaisir de recevoir dans Solae. Une très belle histoire de secret et d'amitié. Et pour nous quitter, eh bien, j'avais le désir de rendre hommage à une figure emblématique du gospel au Sénégal, mort à l'âge de 45 ans le 13 mars dernier à l'hôpital de Dakar, des suites d'une longue maladie. C'est Ben Sissa, avec la chanson « Yesoula, c'est Jésus ».
Yesoula, Yesoula, Nangen khamne Yesoula.
C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé ce matin par Cassandre Puel et avec Delphine Baudet à la prise de son. Émission que vous pouvez réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org et à tout moment sur celui de France Culture ou bien en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2, 10h ce matin dans Présence protestante, c'est un documentaire de la série Protestants du Monde, Pologne, les gardiens du temple, un film réalisé par la franco-polonaise Agnieszka Ziarek. Vous écoutez France Culture et dans quelques instants, vous y retrouverez bien évidemment Marc-Alain Wachnin pour Talmudic, juste après les informations de 9h. Et moi, je vous souhaite un très bon dimanche à chacune et chacun.
man sumay dem ba xamni jaxé